J'ai juste prié pour toi.
Oui.
Saint mon Dieu, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante aujourd'hui et qu'elle nous parle. Je te prie de conduire Patty dans ce temps. Merci parce que tu l'as inspirée. Je te prie de nous aider à travers de ce temps à mieux te connaître, mieux te comprendre et aide-nous aussi à mettre en pratique ce qu'on aura pu découvrir aujourd'hui. Amen.
Amen. Merci. Alors vous voyez, c'est... Mais vous êtes gâtés ce matin, parce que vous allez avoir deux introductions. C'est pas mal ça, hein? Avant l'encouragement. Et avant de commencer justement à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais partager aux églises dont je suis en train de tourner. Et j'aimerais que tu envoies la première image. Ce sont les arbres de la Californie. On les appelle les Redwood. Ils ont plus de 100 mètres de hauteur. Et quand on sait qu'un arbre est très haut, d'habitude, ses racines sont très profondes. Vous avez des palmiers dont des racines sont plus loin, plus profondes que 1 kilomètre, par exemple. Donc, on sait que souvent, c'est normal que quand l'arbre est aussi haut, plus grand et plus profond sont leurs racines. Mais il y a quelque chose d'incroyable parmi ces arbres-là de la Californie, c'est que, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose. Tu peux passer la deuxième? Ah! Ils ont à peine, même pas 1 mètre de profondeur, pour plus de 100 mètres de hauteur. Quelle est la clé de ces arbres? Ils sont entrelacés les uns aux autres. Dieu nous parle à travers la nature, n'est-ce pas? Et ça représente quoi? Eh bien, vous savez, ces arbres, en quelque sorte, représentent la famille de Dieu. Quand vous allez sur YouTube, il y a un ranger qui vous dit « Venez, je vous amène au milieu de cette forêt. » Au milieu de cette forêt. Et il y a des arbres qui n'ont pratiquement plus de vie. Mais ils restent debout. Alors voilà, on est ces racines-là, hein? Et le ranger, il dit que au milieu de la forêt, il y a des arbres qui n'ont pratiquement plus de vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu as du souci, je prie pour toi, on se tient ensemble, on prie les uns pour les autres. Demain, c'est moi qui ai des problèmes, c'est elle qui prie pour moi. Et après, on prie pour elle. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la famille de Dieu. On s'entraîne, on prie les uns pour les autres, on se tient ensemble. Faut-il encore partager? Quand on a des soucis, quand on dit oui, j'ai besoin de toi, que tu me tiennes, soutiennes aujourd'hui, je n'y arrive pas tout seul. Et merci les filles. Tu peux remonter l'autre photo s'il te plaît. Au milieu de ces forêts, ce sont les autres arbres qui tiennent. S'il y a encore une toute petite lueur de vie dans ces arbres, les autres le tiennent. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une grande tempête qui vient? Est-ce que cette tempête fait face à un arbre? Non, elle fait face à une forêt. Et c'est ça ce qui tient ces arbres. C'est alors qu'on sait qu'en Californie, ils ont des tempêtes terribles. Mais ils sont préparés à faire face à ces tempêtes. Amen. Et c'est là que j'aimerais vous encourager ce matin, qu'on a besoin les uns des autres de pouvoir prier quand ça va pas, de pouvoir se soutenir. On a chanté un des chants, je me dis, tiens, c'est dans les pleurs. Comme quand quelqu'un pleure, dans la prière, on se soutient, n'est-ce pas? Il y a des moments qui sont difficiles dans nos vies. Il y a des moments où, eh bien, on se dit, Seigneur, est-ce que je suis tout seul? Et le Seigneur Jésus dit, mais non, tu n'es pas toute seule. De un, tu m'as moi. Le Seigneur, il dit, pas moi, hein, le Seigneur. Et de deux, tu as la famille de Dieu qui est là pour que nous puissions combattre le combat ensemble, les tempêtes qui se font face devant nous. Et c'est sur ça que j'aimerais partager ce matin. Est-ce que mon français, ça va? Parce que je vous assure que c'est pas toujours évident en ce moment. J'aimerais lire avec vous dans Marc, chapitre 4. Tu voudrais le lire pour moi, s'il te plaît? Comme ça, je vais travailler un peu la jeunesse. Ici, tu peux venir ici. Chapitre 4, à partir de 35 à la fin, s'il te plaît.
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?»
Alors nous voyons que dans ce passage, dans Marc, les disciples se trouvèrent dans une tempête terrible. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà été dans une tempête. Vous en avez vu. Moi, j'étais en pleine mer et je sais ce que c'est aussi, la tempête. Il y en a qui étaient sur des bateaux ou bien qui ont vécu des tempêtes avec nos orages qu'on a aujourd'hui. Et je voudrais parler ce matin, pas des tempêtes extérieures, mais des tempêtes intérieures qui nous touchent jour après jour. Dans nos maisons, des tempêtes dans nos maisons, des tempêtes dans nos émotions, dans notre santé, dans nos finances. Des tempêtes qui sont tellement difficiles à cause des circonstances que nous passons. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous auraient pas mal de choses à partager, et surtout ceux qui étaient déjà depuis longtemps dans la vie, ont vu des hauts, des bas, ils ont vu des tempêtes de toutes sortes. Peut-être êtes-vous en train de passer des tempêtes de tentation. On est tenté, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font face à nous, que ce soit sur Internet, que ce soit à l'école, que tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, les tentations sont là. Et c'est des tempêtes, hein, parce qu'il nous faut faire face à toutes ces choses jour après jour. Peut-être que c'est des tempêtes de conflits, de personnalités. Ah, bien sûr, c'est toujours l'autre, hein. C'est vrai, hein. On croit toujours que c'est l'autre qui, eh bien, voilà, hein. Il aurait pas dû me dire ça. Il aurait pas dû faire ça. Ah, ça m'a fait du mal, ça. Vous savez, ça me rappelle une chose, c'est que l'ennemi, il est là. Il a des flèches. Et il les tire. Si moi, dans mon orgueil, je suis bien droite là en disant, voilà. Personne ne peut me quitter. Quand il y a une flèche qui me soit tirée, que ce soit des paroles, que ce soit toutes sortes de choses qui se lancent contre moi, si je suis bien haute comme ça, paf, ça fait quoi? En plein cœur. En plein cœur. Mais, maintenant, si, ben là, ça va être difficile. Si je me couvre. Qu'est-ce qui se passe? Quand les flèches passent, elles vont au-dessus de nous. Elles ne nous atteignent pas. Et ça, ça veut dire l'humilité. L'humilité. Et Dieu demande à ce que notre cœur soit rempli d'humilité. Et ce n'est pas facile. Parce que bien souvent, on se dit, mais j'ai des raisons. Hein? On est là, j'ai bien raison de ne pas pardonner, d'être amer vis-à-vis de cette personne. Hein, il y a tellement de choses comme ça qui... Et on se dit, mais j'ai le droit d'être un peu en colère. Et pourtant, qu'est-ce que la Bible nous dit? De s'humilier, d'être humble, pour que les choses, au lieu qu'elles nous détruisent, ouf, passent juste par-dessus, afin que Dieu puisse vraiment œuvrer dans notre vie. Peut-être d'autres passent des tempêtes dans leur travail. Il y a des circonstances parfois pas faciles, hein, au travail, où il y a des conflits, il y a des mécompréhensions, il y a le stress, il y a toutes sortes de choses. Et on rentre à la maison, on est complètement cassé. Ou bien que ce soit à la maison, avec les enfants, que ce soit au lycée, avec les amis. Toutes ces choses viennent contre nous jour après jour. Et c'est comme des tempêtes, en quelque sorte, que si on ne fait pas attention, elles commencent à prendre de la place dans nos cœurs. Là, dans ce passage, nous voyons que les disciples étaient dans une tempête terrible, hein. Et ils amenaient d'autres barques, parce qu'il est dit qu'ils n'étaient pas tout seuls, hein. Il y avait d'autres barques qui étaient avec eux. Et tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, j'aimerais vous partager trois choses que nous devons connaître et savoir pour passer dans nos vies les plus grandes tempêtes. Les disciples connaissaient ces choses-là, et c'est pour ça qu'ils pouvaient passer ces tempêtes. La première, c'est que nous avons besoin de savoir, c'est que Jésus est dans ma barque. Est-ce qu'il est dans ta vie ce matin? Est-ce qu'il est dans ta maison? Est-ce qu'il est dans ton cœur? Ah, c'est pas parce qu'on va juste à l'église qui veut dire que Jésus est dans mon cœur. Si je ne le connais pas, si je n'ai pas une relation personnelle avec lui, si je ne lui ai pas dit « viens dans ma vie, viens dans ma barque ». Mais quand on sait que Jésus est dans ma barque, il m'a préparé pour faire face aux plus grandes tempêtes. Alléluia! Quel encouragement! On a de quoi louer le Seigneur ce matin, vous croyez pas? De dire merci Seigneur, parce que quand toi tu es dans ma vie, quand toi tu es dans ma barque, peu importe ce qui se passe devant moi, je sais que ma sécurité n'est non dans ce monde, mais dans la parole de Dieu, en Jésus, qui est mort sur la croix pour mes péchés. La deuxième chose qu'ils avaient besoin de savoir, c'est qui il est. Jésus n'est pas juste un homme bon, n'est pas juste un ami. Jésus est qui? Il est le Fils de Dieu, sans tache et sans péché, qui a pouvoir, en disant un mot, sur la mer et au vent. Et ça s'est calmé. C'est ce Jésus que nous servons. Alléluia. Ça fait du bien de savoir qu'il est dans ma barque, que je sais qui il est. Ah, mais vous savez, déjà là, on est sur une bonne route. On peut déjà bien avancer en se disant, si Jésus est dans ma barque, je sais que je suis safe, sécurisée, c'est ça? Hein? Et c'est le Fils de Dieu parfait, peu importe. Il va nous aider à passer les choses les plus impossibles, parce que lui est avec moi. La troisième chose qu'on a besoin de savoir, c'est, ça c'est très important, qu'est-ce qu'il a dit? Allons de l'autre côté. Est-ce qu'il a dit, il n'a pas dit, mes amis, nous allons rentrer dans une grande tempête, le bateau va se désintégrer, tous les bateaux vont perdre, chacun va perdre leur vie, nous nous retrouverons au ciel, quelque part. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, allons de l'autre côté. Te rappelles-tu des promesses que Dieu a faites pour ta vie? Je serai avec toi jour après jour. Je te conduirai. Je suis ton berger. Je suis ton ami. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui te conduit jour après jour, même dans les moments difficiles. Donc s'il est dans ta barque, si tu sais qui il est, si tu sais et tu te souviens des promesses qu'il a faites pour ta vie, on a tout pour faire face aux tempêtes, parce que Dieu nous a équipés pour cela. Il nous a donné la parole de Dieu, qui est encore efficace aujourd'hui. Efficace aujourd'hui, parce que c'est la lumière sur mon sentier. Hein? Quand je suis sa parole, et plus je la lis, plus elle me fait ressembler à Jésus. Mais si je la lis que de temps en temps, ou 5 minutes, en disant, parce qu'on croit que si je lis pas aujourd'hui quelque chose, peut-être il va m'arriver quelque chose. Et vous avez des chrétiens superstitieux comme ça, hein? Ah oui, oui. Mais c'est pas ça qui fait mal, c'est ma relation avec Jésus. Est-ce que je connais mon Jésus? Est-ce que je l'ai vraiment invité dans ma vie? Est-ce qu'il vit avec moi? Dieu nous a appelés à courir une course, hein, et de bien la finir. Et dans cette course, eh bien, il y a des difficultés. Mais dans ces difficultés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir aller au-devant, les éviter et les combattre. Maintenant, j'aimerais juste vous dire, partager quatre choses, j'ai des points ce matin, quatre points que nous devons apprendre à partir de la tempête. Avant, c'était trois choses que nous devons connaître pour pouvoir le savoir, mais maintenant, quatre choses qui vont nous apprendre, qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Il y aura toujours des tempêtes dans vos vies. C'est profond, ça, hein? La parole de Dieu nous dit qu'il y aura des tempêtes dans nos vies, qu'il y aura des moments de difficulté, qu'il y aura des pleurs, qu'il y aura des douleurs. Bien souvent, on se dit, mais Seigneur Jésus, je suis ton enfant. Je devrais avoir des privilèges, je te connais. Je devrais être gardée, je devrais avoir les poches remplies d'argent. Je devrais être en bonne santé. Je devrais surtout pas avoir des difficultés avec ma famille, avec mes enfants. Allons, je suis un enfant de Dieu. Il y aura des tempêtes. Et nous pouvons lire dans certains passages, par exemple, quand il y avait Paul, quand il était dans la tempête, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il avait dit? On avait même peur de mourir. Quand le disciple réveille, Jésus dit, mais réveille-toi Jésus, on va sombrer, tu n'as pas peur qu'on va sombrer. Hein, il était là. Ben Paul, c'était la même chose. Et pourtant, ils étaient exactement où Dieu les voulait. Ils étaient dans la volonté de Dieu et ils ont passé les plus grandes tempêtes. Et j'aimerais vous encourager ce matin, si vous passez des tempêtes au sujet de la maladie, de finances, de relations, sachez que Dieu vous a équipé pour faire face à ces tempêtes. Et c'est notre relation personnelle avec Jésus. C'est quand je commence à passer du temps avec lui. Vous savez, un bateau est fait pour rester sur l'eau, hein? Pas pour couler. Il est fait pour rester sur l'eau. Dieu nous a équipés pour que nous puissions faire face aux plus grandes tempêtes. Alléluia. Ça devrait nous encourager ce matin. Et de se dire, je connais pas vos vies, hein, mais de vous dire, ben, Seigneur Jésus, oui, merci parce que ta parole est vraie, parce qu'elle est encore une promesse pour ma vie encore aujourd'hui et que si je te laisse entrer dans ma barque, si je sais qui tu es et ce que tu as dit, eh bien, Seigneur Jésus, je sais que il y aura des tempêtes dans ma vie, mais je sais que tu vas m'équiper pour faire face à ces plus grandes tempêtes. La deuxième chose qui est très très importante, c'est que nous voyons pourquoi est-ce que les disciples avaient peur? Parce qu'ils ont laissé couler l'eau à l'intérieur de la barque. Non, on l'a lu dans le passage. L'eau commençait à rentrer. Quand on laisse la colère, l'amertume, le manque de pardon, l'inquiétude, la crainte rentrer dans nos vies, qui est notre barque, cela va déstabiliser notre vie, même nos relations. Rendez compte. On croit des fois que, oh, j'ai, comme je disais, on a le droit. Vous savez pas tout ce qu'elle m'a dit ou qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai le droit d'être en colère là ou j'ai le droit. Hein? On se protège un petit peu dans ça. Mais c'est un terrain très dangereux. Je sais pas si vous vous souvenez, en 1994, vous pourrez, les jeunes, voir dans YouTube. En 1994, il y avait un grand ferry, un bateau énorme de l'Estonie qui est allé à Stockholm. Il faut 14 heures pour faire donc d'abord le canal et après en grande mer, hein. En ce temps-là, c'était un des plus grands ferries. Il avait plus de 300 mètres de long, 11 étages de hauteur, il y avait des piscines, il y avait des restaurants, il y avait des discothèques, il y avait tout ce que vous voulez. C'était un des plus grands. Et il y avait, on pouvait mettre plus de, en ce temps-là, plus de 2000 personnes dans ce bateau pour traverser, donc, hein. Et il y avait 4 parkings plus grands qu'un terrain de football, chaque fois. Alors, imaginez-vous, on pouvait mettre plus de 700 voitures, quelque chose comme ça. Et voilà que ce bateau prend passe, il a mis 6 heures à peu près pour passer le premier canal, et quand il est arrivé à la mer ouverte, il y avait une de ces tempêtes. Terrible. Et le bateau a commencé à, vous savez comment ça fait, hein, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Il y a eu de l'eau qui est rentrée dans ce bateau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui avait oublié de sceller, pas juste de fermer une des portes où il y avait le parking des bateaux, des voitures, mais de sceller, hein, pour que ça soit étanche. Donc, ce qui fait que quand ce bateau commençait à aller dans la vague, ça va aller d'un côté, ça allait de l'autre côté, et petit à petit, ça tanguait, et de l'eau commençait à rentrer. En 8 minutes, le bateau a coulé. Et vous savez combien d'eau il fallait seulement? 12 centimètres pour faire couler un bateau aussi grand et aussi énorme. C'était une des plus grandes catastrophes en Suède en ce temps-là, juste après la guerre, hein. Et c'était quelque chose de terrible. Il y avait une centaine de personnes ceux qui étaient tout en haut, qui ont pu se sauver, mais tout le reste, c'était fini. Quand on laisse rentrer de l'eau dans son bateau, c'est dangereux. On croit des fois, oh, c'est juste un tout petit quelque chose là. Mais vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup pour que notre vie sombre, pour que notre vie soit perdue. Ne prenons pas les choses à la légère en se disant, mais oh, non. Et c'est pour ça que j'ai partagé au début avec qu'est-ce qu'on a besoin les uns des autres, la famille de Dieu, pour pouvoir prier les uns avec les autres, pour pouvoir s'entretenir et de dire, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Ça, c'était le troisième point, donc, qu'on peut apprendre au travers de la tempête. Ah, il y a quelque chose de formidable qui est vraiment super, c'est que dans les tempêtes les plus fortes, ne peut pas ôter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu restera toujours, vous rendez compte? On se croit des fois qu'on est les seuls à vivre tant de choses dans la vie, et puis avec, hein? Alors que Jésus est là, il nous a équipés, on a été préparés, on a tout ce qu'il faut pour faire face aux plus grandes tempêtes qui nous surmontent. La puissance de Dieu, ne laissons pas rentrer ces choses qui vont si vite nous rendre malheureux. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais il y avait, vous savez qu'en Chine, et même encore maintenant, mais il y a déjà des temps bien, en 1999, il y avait un missionnaire suisse qui allait en Chine, encore dans les maisons, donc cachées, pour faire des réunions, hein. Et là, ils ont fait une réunion, donc cachée, ils ont loué le Seigneur. Tout d'un coup, la police, elle arrive. Bien sûr, ils ont arrêté tout le monde, mais comme il était suisse, il a pu rentrer au pays. Mais il a gardé le contact avec les gens, donc les Chinois. Et là, il y avait particulièrement une jeune fille de 19 ans que la police a pris, a persécuté terriblement, l'ont abusé en disant... Elle était dans un état pas possible. De un, parce que sa sœur était une évangéliste qui avait beaucoup d'impact dans le pays. Beaucoup se convertissaient à cause de son témoignage. Et de deux, il voulait tuer sa foi, en quelque sorte. Après plus d'une semaine enfin, tout ce qu'ils ont fait avec elle, ils l'ont jetée dans une prison où il y avait 80 femmes. Et c'est pas nos prisons, hein. C'est juste par terre, il y a un petit trou quelque part, et à peine quelque chose que vous pouvez voir, il y a un petit peu d'air que vous pouvez voir. Elle était là par terre et toutes les autres femmes sont venues. On nous dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'a battue comme ça? Alors elle a dit, c'est parce que je suis chrétienne. Ils ont rien compris. T'es chrétienne, ça veut dire quoi? Donc après un moment, ses yeux, vous savez, vous vous adaptez à la pénombre, hein, donc vous commencez à voir un petit peu. Et voici le moment où on leur a apporté à manger, juste un bol de riz, un bouillon. Et tout le monde mangeait, et puis elle voyait tout au fond de la pièce, il y avait une femme attachée. Elle se disait, mais c'est quoi ça? Alors elle s'est levée, elle voulait aller voir parce qu'elle voyait que personne ne lui donnait à manger. Et tout le monde l'arrêtait, n'y va surtout pas, elle est folle, elle va te tuer. On a dû l'attacher parce qu'elle était dangereuse, et on risquait nos vies avec ça, tellement elle était dans la folie, quoi, hein. Alors, il ne pouvait pas la laisser libre. Mais elle a dit, mais je peux pas, je suis chrétienne. Et alors, elle s'est avancée vers cette femme. Elle lui a nettoyé le visage, elle était sale et tout. Elle lui a donné son bol de riz à manger. Et ça, pendant plusieurs jours. Jusqu'au jour où Dieu a touché cette femme dans son cerveau. Elle a été guérie. Moi, je suis sûre que cette chrétienne, elle priait tous les jours pour elle. Elle a été guérie. Et quand toutes ces femmes ont vu ça, ils se sont convertis. Ils ont vu la réalité de Dieu, là. Ils ont vu, mais waouh! Cette femme était devenue complètement saine. Ils ont pu la détacher. Quand la police a vu l'impact qu'elle avait dans cette prison, ils l'ont mise dans une autre prison. Et rebelote. Toutes les femmes se sont converties. Ils l'ont jetée dans une autre prison. Rebelote. Tout le monde s'est converti. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Moi, j'ai jamais été persécutée comme ça. J'ai jamais été battue ou mise en prison pour ma foi. Et ça devait être quelque chose de fort. Mais quand on voit que malgré tout ça, tout ce que cette femme, elle a vécu, cela n'a pas pu empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Je connais pas votre situation aujourd'hui, mais je sais que dans ce que vous vivez, rien ne peut empêcher la puissance de Dieu. Il est tout puissant. On ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive, hein. On sait pas toujours le pourquoi. Mais si nous faisons confiance en Dieu, si nous réalisons que si Jésus est dans ma barque, si Jésus est avec moi, qu'il me conduit jour après jour, que je sais qui il est, que je me rappelle que toutes ces promesses qu'il m'a données, je serai avec toi, je te garderai, je prendrai soin de toi, c'est moi qui pourvois pour toi. On a tant de choses ce matin à être reconnaissant et à le louer. Tant de choses où on peut dire, oui Jésus, je veux te louer. Je veux arrêter de regarder sur moi-même et de murmurer et de dire, oui c'est à cause de l'autre. Non, Seigneur, aide-moi à fixer les yeux vers toi. Aide-moi à dire, Seigneur Jésus, à pardonner, à retirer l'amertume de mon cœur pour que je puisse te louer librement et que je puisse avoir des victoires dans ma vie jour après jour, afin que toi tu puisses être glorifié, afin que toi tu puisses être loué. Que l'amertume, la crainte, toutes ces choses qui nous envahissent, hein, si facilement, hein, les jalousies et tout ça, le mensonge, toutes sortes de choses, la pornographie, enfin l'internet, tout ça, où on ne fait pas attention. Oh, ça paraît très innocent au début. Mais combien vite cela commence à accaparer notre mémoire, là. Hein, moi, je dis toujours aux enfants que, quand j'ai en Thaïlande, ce que tu n'as pas vu, ne te tente pas. Ils me regardent. Je travaille avec beaucoup d'Asiatiques, donc des Chinois, des Taïwanais chinois. Alors, les jeunes hommes posent beaucoup de questions, les jeunes adultes. Et alors, je leur dis, vous savez, si vous avez des tentations, c'est que vous avez regardé beaucoup de choses, hein. Et ils me regardent, baisse la tête. mais c'est vrai, c'est vrai. Je vois aussi beaucoup quand je suis dans la jungle, On se dit, mais comment, hein, nous, quand on vient là-bas avec tout ce qu'on a, on dit, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Comment est-ce que... Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas besoin. Mais c'est vrai, hein? Et on vit mieux, on vit plus simplement, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Hein? Alors, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à lever les yeux vers le ciel en disant, Seigneur, est-ce que je te connais? Est-ce que je me rappelle des promesses que tu as pour ma vie? Est-ce que je me rappelle que, eh bien, tu m'as bien dit, je serai avec toi jusqu'au bout? Hein? Jusqu'au bout. Qu'il y aura, qu'on fera même face à la mort. Mais si Jésus est dans ma barque, tout va bien. Puisqu'il m'a équipé à faire face aux plus grandes tempêtes de la vie. Pour que lui puisse être glorifié, pas moi. Parce que moi, j'ai désespérément besoin de lui. Et je vous assure que je passe des tempêtes aussi. Mais si je sais que Jésus est là, si je sais qu'il est vivant, j'ai partagé un petit peu hier soir avec les jeunes, tu te souviens, hein? J'ai dit, j'ai fait des zéros, hein? Plusieurs zéros. Alors j'ai dit, l'homme, quand s'il marque quelque chose dans ce rond-là, il marque la vie, et je vais être très bien dans la vie parce qu'il y a du succès, j'ai du succès, donc tout va bien. Ou bien parce que je suis beau ou belle, ou bien parce que je suis très... l'intelligence, donc j'ai beaucoup d'argent, j'ai une très bonne santé, je suis très sportif, enfin toutes ces choses dont le monde se repose, hein. Et j'ai mis ça dans un rond et j'ai dit, mais quand Dieu regarde ça, il voit zéro. Zéro. Parce qu'il manque quelque chose. C'est vrai, toutes ces choses font partie de la vie, hein. Le succès, l'argent, la santé, la popularité, la beauté, enfin toutes sortes, hein. Ça fait partie de la vie, mais s'il manque le numéro 1, qui est Jésus, hein, qui va faire toute une différence, alors il y aura des millions là. Mais oui, parce qu'il y a le numéro 1 devant. Vous ôtez ce numéro 1, c'est zéro. Vous mettez 1 avec 0, ça fait 10, hein. Et vous avez tous les autres zéros. Qu'est-ce qui reste? Qui a le plus de valeur? Le 10, même si c'est un petit chiffre. Mais parce qu'il y a le 1 devant. Vous ajoutez un autre 0, ça fait 100. Un autre 0, ça fait 1000. Un autre 0, ça fait 10 000. Ça, c'est la famille de Dieu. On revient dessus. Ça, c'est la famille de Dieu. Parce qu'il y a Jésus qui est d'abord. Jésus est devant. Si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, notre barque dangereusement bascule. Et l'eau s'infiltre. L'eau s'infiltre. Mais si Jésus a toute la place dans ma vie jour après jour, si je sais sur qui je peux me reposer, malgré la tempête qui fait face dans ma maison, dans mon cœur, dans ma famille, dans mon travail, je sais qu'il va être avec moi. Et je sais que je peux faire face aux plus grandes tempêtes de la vie. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons vraiment que nos cœurs puissent s'ouvrir à toi et que nous puissions vraiment réaliser de nouveau profondément combien il est important que tu prennes toute la place dans nos vies. Que nous ne nous appuyons pas sur les choses de ce monde, malgré qu'elles font partie. Mais si nous vivons avec toi, et toi, tu es en premier, ces choses ont une autre valeur que humainement parlant. Parce que c'est toi qui nous donnes toutes ces choses. C'est toi qui es notre secours. C'est toi qui es notre force et notre forteresse. C'est toi qui nous renouvelle alors que notre cœur est troublé, que notre âme est troublée, Seigneur Jésus. Et nous voulons t'élever ce matin en te disant quel privilège nous avons de te connaître et de pouvoir encore une fois ensemble te dire que ça fait du bien de faire partie de la famille de Dieu, et de pouvoir prier les uns pour les autres et t'élever et te dire, ben oui, je ne suis pas fort tout seul, je ne suis pas forte tout seul. Ah, mais quand l'ennemi vient rugir, je peux dire, mais je ne suis pas seul. J'ai la famille de Dieu, j'ai mon frère et ma sœur qui prient pour moi, qui m'élèvent devant le trône de la grâce. Et je peux faire la même chose avec ceux qui ont des besoins, à ceux qui sont troublés. Seigneur, aide-moi à réaliser que ta parole encore aujourd'hui est efficace et que les promesses que tu as données à tes enfants, Seigneur, a de la valeur et que tu ne changes pas, mais que tu es celui, après tant d'années où nous te servons déjà, nous te connaissons, aide-nous à pas baisser les bras, mais à les laisser lever, malgré la tempête, parce que nous ne sommes pas seuls. Mais nous savons, même si nous sommes dans la volonté de ce que tu as prévu pour notre vie, tu nous as équipés à faire face aux plus grandes tempêtes. Aide-nous à laisser l'eau en dehors de nos vies, à laisser toutes ces choses qui viennent si facilement dans nos cœurs, ne pas prendre racine en nous, afin que ta gloire puisse être manifestée au travers de nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ce matin, pour ce temps où nous pouvons te dire merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, fidèlement, jour après jour. Et nous te bénissons pour cela. Sois béni et loué Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir mes frères et sœurs ce matin ici, leur faire du bien, les encourager et qu'ils puissent repartir sachant Seigneur que tu es Jésus, que tu es celui qui dit qu'il est, que tu es dans leur barque. Et que tu vas aider à les traverser ce chemin de vie jour après jour. Sois béni et loué. Amen.